présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. C'est la mort. Ce sont sûrement les francs blancs qui ont dû mettre le feu pour expulser les gens. Et les autres peuvent faire sortir du quartier. Les gens sont furieux. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont entourés de policiers et de soldats. Les malades sont mis dans des ambulances, les autres sont mis dans des cars. Ceux qui sont dans les ambulances iront à la clinique Requin Pontois. Entourés de soldats et de policiers. Les autres sont menés dans les camions.
Toutes les voies d'accès au quartier ont été fermées. Le périphérique a été miné. Dégagez toutes les rues. Rendez-vous dans la station de métro la plus proche et la ville.
Alors c'est temps, des bulldozers camions arrivent pour enlever les grabats des rues. On entoure le quartier, les grues arrivent, on grillage, on met des palissades, on met des gardes avec des chiens.
Thank you.
commence à enlever les décombres, à démolir les murs, ce qui reste des murs. Et tout se vide hors de Paris, car les camions emmènent tous les débris hors de Paris. Ceci a été fait si rapidement et bien fait.
C'est bien ceux qui vendent des sous.
Que les gens ne sont pas dupes. Que tout était prévu à l'avance. Même l'incendie était prévu. Ils avaient même mis des pancartes disant qu'il y avait des logements neufs à acheter. En rien de temps, la rue est devenue un chantier. Les gens sont furieux contre les francs blancs. Les gens sont furieux contre la franc blanc. On en parle, le père d'Alexis dit, les gens ont raison. Ce sont les francs blancs qui ont mis le feu. Ce sont des criminels. Alexis se dit, Madame Poncet a raison. Il dit, je ne veux plus revoir Gilbert ni un franc blanc. Sa mère lui dit, tu as raison, ce sont des criminels. Ils ont tué, mis à la misère des milliers de personnes. Pendant qu'on a mis en place le chantier, en un rien de temps, les gens qui traînaient, qui étaient encore dans la rue, ont été mis dans des camions pour les amener dans des camps francs blancs. Ces camps se trouvent dans des champs entourés de fils barbelés, miroirs d'or, police, etc. Il y a des cabanes autour. Les gens Ce sont des cas, on les met en rang, les sépare, les hommes ensemble, les femmes ensemble, les enfants ensemble. Il ne faut pas mélanger les sexes, on ne veut pas d'histoire. Et puis lorsque l'on est pauvre, on n'a pas à pondre d'autres pauvres. Puis on les met dans des cabanes, on les fait mettre à un mur, douche. Désinfectant, on les passe au jet d'eau. On leur coupe les cheveux, les ongles, on leur donne des vêtements propres. Voilà comment ça se passe. Ils entrent dans une pièce pour se déshabiller. Leurs anciens vêtements sont brûlés de suite. Une fois nus, on les douche. Puis, dans une autre pièce, ils sont désinfectés. Dans une autre pièce, on leur coupe les ongles et les cheveux. Dans une autre, on les déshabille. Et dans une autre pièce, on leur donne un autre vêtement. Toutes ces réparations, même les douches, se font ensemble, sans aucune intimité. Le lendemain, ils sont réveillés par un sifflet. Douche, on leur dit de ne pas s'habiller, rester nus. On les fait passer dans une pièce où un médecin fait passer une visite médicale. Pour ceux qui sont en mauvaise santé, les poitrinaires, ceux qui ont le sida, le cancer, ou sont même vieux, plus de 60 ans, ils vont être mis dans une pièce, ils auront en quart à la clinique Riquin-Pontois. Les autres resteront, on les habillera, et ils iront prendre leur petit déjeuner.
Les Indiens vont attaquer.
Puis dans l'après-midi, ils vont être reçus par le conseiller social, qui les recevra un. Mais avant, ils sont reçus en groupe dans une pièce où un homme sur une estrade leur dit: vous êtes des corps sociaux, des gens incapables de vivre en société sans aide. La Franc Blanc va vous aider. Le groupe Pontois-Riquin jeûne tout aussi. Des gens comme vous, la société n'en a pas besoin. Et vous êtes une charge pour la société. Vous êtes exclus. Vous êtes vous-même exclu de la société. Nous allons faire en sorte à ce que la société vous trouve une place. Mais la vie, le monde est dur. Et tout se paye. Vous aurez de l'aide, mais en échange, vous pourrez choisir. Votre famille a été dissoute. C'est pour votre bien et vous permettre qu'elle ne soit plus à votre charge. Je vais vous interroger pour savoir où vous irez. La Franc Blanc a construit des logements sociaux de qualité en dehors de Paris, pour que vous ayez de l'espace santé, bien-être. Et que vous soyez entre vous. Le mélange des classes ne crée que la gêne. Après ce discours, ils sont reçus par le conseiller social. Puis, on les mène en banlieue, dans des cars. Les logements sont au milieu de champs et de décharges. Il y a un super casino ou autre, s'il n'a pas été brûlé ou vandalisé, une mosquée, un commissariat de police, un ensemble d'écoles pour que les jeunes viennent se défouler pendant les cours. Les profs sont des éducateurs du MJC. On leur fait jouer au foot. Il y a des distributeurs coca et préservatifs. Une infirmerie est là pour conseiller pour l'avortement. On leur explique que l'avortement ne doit se faire ni dans une classe, ni dans une cave, ni les rapports sexuels non plus. Des graffitis partout, voitures brûlées, les allées des immeubles crasseuses et en complètement mauvais état, à moitié détruites, portes défoncées, escaliers pourris de canettes, etc. Tout est pourri. Les francs blancs savent, c'est que les gens vont s'entretuer et que la moyenne de vie, là, est de 6 mois. Les jours passent. Les parents d'Alexis ont peur et sont gênés de rester chez les servants, mais ne savent où aller. Toutes ces locations sont chères. La mère d'Alexis dit à la mère de Mathieu: nous ne pouvons pas rester chez vous constamment. Il faut qu'on en cherche un logement. Mais comment faire? La mère de Mathieu lui dit: j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à la chose. Il y a peut-être une solution. L'immeuble a un grenier. Et nous n'avons rien à y mettre. Pourra peut-être vous servir. La mère d'Aleti ne sait que dire. La mère de Mathieu lui dit: nous allons le voir et nous verrons bien. Elle prend la clé du grenier et elles vont voir. Le grenier est assez grand. De quoi qu'ont les servants fait une pièce. Une belle pièce même. Bien sûr, il faut la nettoyer et enlever toutes les vieilleries. La mère de Mathieu lui dit: vous pouvez même faire des cloisons Et puis, pour ce qui est de l'eau, vous la prendrez chez nous ? Et Madaletti lui dit, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Le soir, elle prévient son mari et son fils. Le lendemain, ils vont voir le grenier. Il y a une fenêtre en sous-pente. Le plafond est assez haut. Le père dit, ma foi, ça pourra aller. On va débarrasser tout ça et mettre des cloisons. Alexis m'aidera. Et le lendemain, après les cours, le père et le fils débarrassent le grenier. Ils vont jeter les déchets, les vieilleries, près des bennes du chantier. Le père lui dit, ils peuvent bien nous faire ce service, nous rendre ce service après ce qu'ils nous ont fait. Ils ont mis trois jours à vider le grenier et à nettoyer. Puis le père a acheté des planches pour faire les cloisons pour deux chambres. Ils ont peint les murs et les cloisons en blanc. Puis il a fallu se loger, mettre des meubles. Les voisins de l'immeuble leur en ont prêté. De vieux meubles, de vieux matelas, une table, quatre chaises, plus un petit buffet. Trois semaines plus tard, ils ont pu se loger en haut. Ce n'est pas le paradis, mais c'est mieux que d'aller en banlieue. Les gens du quartier ont peur que l'on vienne mettre le feu la nuit. Ils ont fait des rondes. Des bruits courent que tout le quartier va être démoli. Alexis pense qu'il vaudrait peut-être mieux déménager et changer de quartier. Mais aller où? Et puis de toute façon, tout Paris va être rénové. La mère d'Alexis va tous les jours prendre sa douche chez la mère de Mathieu, parce qu'elle n'a pas d'eau. Et pour les WC, ils vont dans la cour. Il y a une cabane abandonnée. Un trou a été fait, des planches pour y mettre les pieds. Mais le trou ne va pas dans les canalisations. Et les excréments restent dans le trou. Ce qui fait que ça sent mauvais. Ça attire les mouches et risque de donner des maladies. Et le trou risque de se remplir. Des fois, avec une pelle, l'on retire les excréments ou on les aplatit. Certains temps, disons les temps chauds, montent de la cour une drôle d'odeur. Et cette odeur va dans les cuisines, les appartements, parce que les fenêtres des cuisines donnent dans la cour. Et lorsqu'Alexis a un besoin pour aller au WC, tout l'immeuble et les les immeubles qui entourent la cour, les gens de ces immeubles le savent qu'il y va ou que la famille y va à cause du bruit de la porte. La nuit n'ose pas y aller. Ils ont peur de déranger. C'est répugnant faire tout ça et Alexis en a les nausées. La mère d'Alexis n'ose pas y aller seule et dit à son fils de l'accompagner. Elle a peur qu'on l'observe en train de faire. Alors il reste près de la porte. Lui aussi, Alexis est gêné parce qu'il a plus de choses à cacher que sa mère. C'est un garçon. Toutes ces choses sont très déplaisantes. Et des fois, Alexis se met à rêver qu'il va chez Gilbert pour lui demander un logement. Mais il n'ose pas. N'ose pas. À cause de ses parents et de la poncée. Les jours passent. Mathieu comprend la détresse de son ami et lui dit que ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Alexis va toujours voir la poncée pour le thé. C'est pour la remercier de la somme qu'elle donne. Tu me remercieras en ayant de bonnes notes. Je crois que plus tard, tu seras très riche. J'ai de grandes espérances pour toi et tu peux en avoir. Alexis se met à rêver qu'il hérite de Madame Poncet, qu'il habite une belle maison. Mais, et Nathalie? Oh, il y en a bien assez pour deux. Et puis Nathalie à Gilbert, alors. Il parle de ses espérances à Mathieu. Mathieu lui dit, fais attention de ne pas trop rêver. Elle peut changer d'avis. Tu n'es pour elle qu'un caprice et rien d'autre. Alexis lui dit, peut-être un peu plus. Non. Alexis ne sort plus, ne va plus à des soirées. Mais les jeunes filles continuent à lui courir après. Elles l'attendent à la sortie du lycée. Un après-midi, Brigitte, qui est venue l'attendre, lui demande « Pourquoi est-ce que tu ne viens plus à mes soirées ?» Il lui dit « Je n'ai plus le temps, j'ai mes cours et ma mère à m'occuper. » Elle lui demande « Pourquoi ? Elle est malade ?» Il lui dit « Non, mais je dois l'aider. » « Qu'est-ce qu'elle fait ta mère ?» Il lui dit « Elle travaille beaucoup. » La fille pense qu'elle a énormément de rendez-vous et qu'elle voyage pour ses affaires. Elle se dit que ce doit être une personne importante et qui doit lui servir de secrétaire, d'aider pour recevoir. Elle lui demande « Tu ne m'invites jamais chez toi. Pourquoi ?» Il lui dit « C'est impossible. Il ne faut pas gêner ma mère. » Elle lui fait, eh bien, viens chez moi, autrement je vais chez toi. Il lui dit, tu sais même pas où j'habite. Elle lui fait, ma mère connaît le proviseur du lycée, il pourra se renseigner. Il est tout rouge. J'aime mieux aller chez toi. Elle fait, viens demain, 21h, je fais une petite soirée entre copines. Bien, j'y serai. Et je peux amener mon ami? Elle lui dit, si tu veux, et elle le quitte. Il se dit, merde, merde. Lorsqu'il voit Mathieu, il lui dit, on l'a invité chez Brigitte. Mathieu lui demande, pourquoi? Parce qu'elle veut venir chez moi. Alors j'ai préféré, c'est qu'elle vienne, tu es allé chez elle. Et quand? Il lui répond, demain 21h. Le soir, ils en parlent à leurs parents. La mère de Mathieu lui dit, ça tombe mal, je suis juste. Mathieu lui dit, j'irai là-bas sans rien. La mère d'Alexis lui dit, quelle poisse! Décommande-toi, dis que tu es malade. Il lui dit, elle viendra me voir. Elle lui dit, eh bien, laisse-la venir. Non, sûrement pas. J'aurais trop honte. Elle lui dit, honte de quoi? C'est pas toi qui t'es mis dans cette mélasse, mais des gens comme elle. Il lui dit, je le sais, mais j'aurais tout de même honte. Laisse-moi y aller. Elle lui dit, tu n'as pas de vêtements, j'irai comme ça. Il soupire et lui dit, fais comme tu voudras. Et le lendemain, à 21h, ils vont chez la fille. Ils y vont à pied. Lorsqu'ils arrivent, il y a déjà du monde. On entend dans l'allée le bruit de la fête. Il appuie sur la sonnette, un peu gêné. La porte s'est ouverte. C'est une grande brune, maigre, cheveux rouges, en hérisson. Elle porte une robe verte. Elle fait « Salut !» Elle s'illumine « Salut !» Je suis une connaissance de Brigitte. Je suis Alexis, il ne manque pas chez Mathieu. Elle fait « Entrez !» Ils entrent. C'est sombre, il y a du bruit, de la musique, la foule. Elle lui dit, elle doit être un peu plus loin, là-bas, au fond. Et elle les laisse. C'est enfumé, ça sent la cigarette. Les deux garçons arrivent à se faufiler au milieu de ces gens dont certains se tortillent au rythme de ce qu'on appelle musique. Enfin, ils voient Brigitte en robe dorée, très courte. Lorsqu'elle les voit, elle leur dit « Oh, vous voilà !» Elle les prend par la main et les pousse. Ils embrassent sur la joue. Puis, elle tape des mains et crie « J'ai une grande nouvelle à vous dire !» Vient d'arriver un revenant, Alexis, le bel Alexis et son ami Mathieu. Tout le monde applaudit. S'approche, ils sont entourés, embrassés de partout. On lui demande pourquoi on ne voyait plus. Brigitte dit, parce qu'Alexis est très pris, il aide sa mère dans ses affaires. L'on fait, oh, comme c'est bien, te demande. Ta mère a quoi comme affaire? Il est gêné, ne dit rien. Brigitte dit, elle est dans les grandes affaires, tout ce qu'on. Oh, Alexis ne sait où se mettre. Alexis se sent gêné, il ne sait où se mettre. Une grosse jeune fille blonde, à robe rouge, très collante, ce qui fait sortir ses ronds d'or, lui dit « J'ai pas ton adresse !» Brigitte dit « Liste rouge !» C'est à cause de sa mère et de ses descendances. Tous pensent. Alexis, un russe blanc, le descendant des tsars, etc. Puis la soirée se continue. Brigitte prend Alexis par le bras et lui dit « Tiens, on va dans un coin plus calme. » Alexis lui dit « Mais je ne suis qu'un enfant. » Et lui dit « Tu veux rire? Tu es Alexis? Tu ne penses qu'à ça. » Elle s'imagine un Alexis qui n'existe pas et qui est plus vieux que le vrai. Alexis pour elle est devenu une sorte de prince charmant. Elle ne se rend pas compte que c'est un enfant, presque un adolescent. Parce qu'elle le croit riche et avec une histoire de famille romanesque et qu'il est beau. Il n'y a qu'une seule chose qui est vraie, c'est sa beauté. Il dit à Brigitte, tu ne sais pas ce que tu crois. Et même je suis le contraire de ce que tu crois. Tu es gentille mais un peu collante. J'aimerais plus c'est d'amitié. Et j'aurais plus d'amitié pour toi si tu me laissais un peu. Elle est triste et vexée. Il lui dit, mets-toi à ma place. J'ai besoin qu'on me prenne pour quelqu'un de simple. Et que l'on m'aime pour ce que je suis et non pour ce que les autres veulent que je sois. Ne sois pas triste. Allons danser. Elle se laisse mener. Elle lui dit, je comprends. Ce que c'est rester incognito. Bien, je te gênerai. Et lorsque tu viendras, les invités te gêneront, te laisseront tranquille. Et la soirée se continue. Elle dit à ses copines qu'il veut rester incognito, qu'il leur rend encore plus séduisant aux yeux des filles. Elles le regardent, mais sont déçues, parce qu'elles ont reçu l'ordre de le laisser. Certaines filles pensent que c'est Brigitte qui a dit ça pour se le garder. Pour elle toute seule, quelle Brigitte. La mère d'Alexis continue à faire les ménages. En plus de Madame Poncette, elle va chez un couple qui habite une villa près de Versailles. Ce sont de gros industriels. La villa est toute blanche, moderne, avec de grandes baies vitrées. Elle a deux étages. Il y a une piscine, un parc, un tennis, un golf miniature. La maison est meublée en meubles modernes, très chic et cher, en verre et pierre. Tableaux et statues modernes qui ne représentent rien sauf ce qu'a décidé que devait représenter l'artiste. Mais on y voit ce que l'on veut. Les sculptures, ce sont des cailloux bruts ou poncés sur des socles de verre transparent où une lampe éclaire par-dessous. Les sculptures sont très grandes. Il y en a dans toutes les pièces. Les tableaux représentent des traces de couleurs sur de la surface transparente. Le cadre est en métal. Les tableaux sont si gigantesques et aussi sont éclairés par de minuscules lampes qui encerclent le cadre mais qui ne sont pas vus de l'extérieur. Dans cette maison, tout est transparent et même la table de la salle à manger, qui est immense, est en verre. Plutôt, le plateau est en verre et les pieds en pierre brute. Les murs de la maison sont blancs, crépis. Les sols sont en marbre gris clair. Les lustres sont modernes et en verre. Avec ce décor, ces baies vitrées, on a l'impression de vivre dans une maison transparente sans la moindre intimité. La décoration donne un côté froid, beau mais froid. On ne peut pas se détendre vraiment, ça manque de chaleur. Le propriétaire de la maison est un gros industriel de fournitures informatiques et de CD-ROM. Il est marié à une femme qui ne travaille pas, n'ont pas d'enfants. Ils ont mis une annonce pour chercher une femme de ménage et c'est comme ça que la mère d'Alexis a eu ce travail. Le travail n'est pas pénible. Comme ils ne sont que deux, ils ne salissent pas beaucoup. Sauf s'il y a des invités. Le plus important, c'est surtout les vitres et le verre qui a nettoyé. Elle a trouvé une bombe nettoyante vitre qui fait très bien l'affaire. La plupart du temps, elle vient faire le ménage. La villa est vide. Elle a les clés. Après-midi, qu'elle arrive, elle trouve le couple au salon. Ils sont tous les deux debout au milieu de la pièce. Le mari, un homme grand mince, les cheveux châtains, habillé d'un costume blanc. Son visage est osseux, ne manque pas de charme. Sa femme, grande, blonde, cheveux mi-longs, yeux bleus, habillée d'une robe blanche. Le mari dit à sa femme, « Nous allons le lui demander. » Et il demande à la mère d'Alexis, « Madame, en faisant le ménage hier après-midi, n'avez-vous pas trouvé une bague ?» Elle lui répond, « Non, monsieur, vous en êtes sûr ? Ma femme me dit, qu'elle l'a laissé sur le lavabo de la salle de bain. » La mère d'Alexis lui dit, « Oui, bien sûr, j'ai nettoyé la salle de bain, mais je n'ai rien vu. » « Vous en êtes sûr, parce que ce bijou est très cher. » « Oui, monsieur, je vous assure. » Il lui dit, « Si par hasard, vous l'aviez pris, il serait plus sage de me le rendre. Vous ne pouvez pas le revendre. » Vous feriez prendre. Il est unique et classé. Denise, vexée, parce qu'on la traite de voleuse, lui dit, « Monsieur, je vous assure que je n'ai pas pris ce bijou. » Je lui dis, « Alors, où peut-il être ? Nous ne sommes que trois dans cette maison, avec vous. Et j'ai cherché de partout. J'ai demandé à ma femme pour faire changer sa monture. Elle est incapable de me dire où il est. » Denise lui dit, « Je ne vois pas. d'un midi. Nous allons être obligés, c'est de prévenir la police et de perquisitionner chez vous. Venez lui dit vexé. Vous pouvez, si vous le voulez, le faire tout de suite. La femme dit à son mari, laisse, il est perdu, et c'est tout. Il la regarde, bien surpris qu'elle parle comme ça, et lui dit, tu parles d'un bijou de plusieurs millions, et qui a appartenu à ma mère. Elle lui dit, je sais, mais que veux-tu, il a disparu. Son mari lui dit, oui, peut-être. Il trouve bizarre que sa femme, et se dit qu'elle doit peut-être savoir où il est. Il lui demande, tu es sûr que tu ne sais pas où il est? Elle lui dit, bien sûr, tu penses bien que j'aurais évité cette scène aussi ridicule, accuser cette brave femme. Il lui dit, c'est toi qui m'as forcé à le faire. Denis se sent gêné et aimerait s'en aller. Elle sent qu'elle va se trouver au milieu d'une scène de ménage. Elle recule un peu. Le mari le voit et lui dit, vous restez ici, nous sommes trois et la chose doit se régler. Il dit à sa femme, puisque tu dis que ce n'est pas la bonne, alors ce ne peut être que toi. Elle lui dit, tu n'es qu'un imbécile. Peut-être a-t-il disparu dans un coin. Il lui dit, nous avons cherché de partout. Elle lui dit, la maison est tellement grande, il se peut que l'on n'ait pas vu. Il réfléchit pour voir les coins où il n'a pas cherché et se dit, il n'y a que ma femme que je n'ai pas fouillée. Elle lui dit, tu l'as peut-être sur toi. Elle lui dit, mais c'est ridicule. Il lui demande, pourquoi? C'est le seul endroit que je n'ai pas vu. Elle lui dit, eh ben, fouille-moi. Il se dit que si elle me dit ça, c'est qu'elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas sur elle. Il voit sur la table basse un sac à main et le lui montre en lui disant, et ça? Il fonce sur le sac. C'est un grand sac blanc à fermoir. Il l'ouvre. Et renverse ce qu'il y a dedans. Il renverse sur la table. Le sac est vidé. Elle est furieuse. Elle lui dit, on ne fait jamais ça à une femme. Et regarde ce qui est tombé sur la table. Mouchoir, poudrier, rouge à lèvres.
présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable, production mise en scène Julien Jean-Pierre.